Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de journalistes exceptionnels. On ne les présente plus. Voici la grande, la majestueuse Clémence.
Hello.
La formidable Justine.
Bonjour.
L'incroyable Louise.
Bonjour.
La fantastique Zoé.
Bonjour.
La grandissime Ambre.
Bonjour.
Et de Charlie qui fait acte de présence.
Bonjour.
Et très objectivement, la merveilleuse Adèle, c'est-à-dire moi-même, qui présente cette émission. Nous allons apporter la question de l'image dans tous ses états. Nous démarrons l'émission avec Clémence, qui va nous faire un petit récap historique de l'image, de sa représentation, son impact sur nos sociétés.
Le mot « image » vient du latin « imago » qui désignait une sorte de masque moulé à partir de cire d'abeille sur le visage d'une personne morte afin d'en conserver les traits, comme d'un portrait, et d'en produire éventuellement un moulage. L'image est donc une représentation visuelle de quelque chose ou de quelqu'un. Mais l'image ne serait donc pas avant tout un art. L'image, dans le sens de photographie, n'est apparue qu'au XIXe siècle, mais elle existait déjà bien avant, grâce à la peinture. En effet, la première forme de représentation visuelle est apparue à la préhistoire, avec l'art rupestre. Les hommes, à cette époque, ont utilisé la peinture pour montrer en image leurs conditions de vie. Tout au long de l'histoire, la peinture a servi à parler de différents sujets, tels que la religion, l'amour, la guerre, mais a aussi servi à les dénoncer. La peinture était une source d'expression. La photographie apparaît en 1839. Elle permet cette fois-ci de fixer une image, un moment, dans le temps. C'est une invention incroyable pour l'époque. Le cinéma est ensuite apparu en 1895. L'image avant fixe a cette fois-ci été en mouvement. Le cinéma est d'abord muet, et seule l'image est importante. Elle permet alors, à nouveau, de transmettre des émotions, de divertir et de faire passer des messages. Aujourd'hui, l'image est présente partout autour de nous grâce à tous ces arts. La peinture et le cinéma sont encore une source d'expression. La photographie permet aujourd'hui de montrer ce qui se passe dans le monde et de dénoncer des choses avec le journalisme ou même sur les réseaux sociaux. Elle est aussi utilisée dans la publicité pour vendre un produit et tout le monde l'utilise dans son quotidien sur les réseaux sociaux pour se mettre en scène et transmettre au monde entier ce que son chat a mangé au petit déjeuner.
Vous êtes toujours sur Radio PFM en compagnie du Radiolab, c'était Clémence pour le point chronologique. Vous avez probablement plusieurs centaines de photos dans votre téléphone et vous ne savez plus quoi en faire. Zoé et Ambre ont recueilli vos voix.
À chaque retour de vacances ou de sortie, c'est la même histoire.
Un téléphone au stockage surchargé.
L'envie de faire un album photo.
Et des heures à les regarder en boucle avec un sourire plein la tête.
Vous l'aurez compris, on parle de l'addiction aux photos.
Vous savez, ce phénomène qui se déroule lorsque l'on veut absolument prendre un paysage en photo.
C'est le moment où on se dit qu'une seule photo suffira, mais qu'au final, sous cet angle ou bien celui-là, ça sera mieux.
Résultat, des millions d'exemplaires de paysages et des heures passées à analyser chacune d'entre elles.
Tout ça afin de trouver celle qui sera parfaite pour les stories, pour narguer les amis et la famille, et que celle-ci au final, c'est la première.
À l'époque, c'était sur les appareils à photos que celle-ci s'entassait, et aujourd'hui, dans la génération de l'addiction au téléphone, c'est le stockage qui en prend un coup.
Dans les années antérieures, on ne prenait que l'essentiel, comme les portraits de famille, ou les paysages qui étaient vraiment à couper le souffle.
Prenez le téléphone d'un jeune de nos jours, et rendez-vous compte à quel point sa galerie,
c'est le bordel.
Il y a des photos du ciel,
des photos des amis,
mais au final, la photo prise le 6 avril 2022 car...
Le soleil, il est beau aujourd'hui.
Vous la regardez encore?
Ça, c'est l'addiction aux photos. On les accumule, mais finalement, on les oublie vite. On a facilement des dizaines de milliers de photos et on continue d'en prendre jusqu'à avoir cette notification qui nous dit que notre stockage est saturé.
Nous nous sommes rendus dans les rues d'Arras, interviewer des personnes afin de savoir si eux aussi étaient addicts.
Est-ce que vous prenez beaucoup de photos? Pensez que vous en avez environ combien dans votre galerie?
Je le vide jamais, donc là, je dois en avoir 400, 500, je pense.
Prenez des photos de quoi?
Alors, je m'en sers un peu pour le taf. Je suis du reportage, c'est du photojournalisme très, très amateur. Après, toutes les photos de WhatsApp, elles se mettent dans la galerie. Donc, il suffit que le club de foot m'envoie 45 photos du déplacement pour que j'ai 45 photos du déplacement de l'équipe dans ma galerie.
Est-ce que vous les regardez souvent?
Ça m'arrive de temps en temps. Alors, c'est toujours un grand débat avec ma copine, puisque ma copine, elle développe des photos, mais elle développe sans trier. Alors que moi, je veux d'abord faire un tri, mais finalement, je le fais jamais le tri. Donc, mais j'essaie une fois par an de faire une soirée photo avec mes enfants.
Bah, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais du coup, vous en faites quoi des photos ?
Ben, je pense qu'elles vont quand même finir par être effacées, perdues un moment, parce que tout finit par, toujours par déconner. Et je vais les perdre, je vais perdre mes souvenirs, comme ma vie va s'éteindre un jour.
Est-ce que les photos ont une importance pour vous ? Symbolique.
Je n'ai longtemps prêté aucune attention aux photos, mais finalement, je trouve que c'est un truc cool. Si je faisais pas de la radio, j'aimerais bien faire du photojournalisme. Je trouve que c'est vraiment très très cool, mais je n'ai aucune technique. Aucune, mais je ne sais pas. Donc, heureusement, les appareils photos, les smartphones font des super photos. Même si tu es nul, la photo est belle.
Pensez-vous être addict aux photos, de toujours vouloir en prendre ?
Pas du tout.
Est-ce que vous prenez beaucoup de photos avec votre téléphone ?
Oui.
Oui,
beaucoup.
Ça permet d'avoir un album en permanence sur soi.
Vous pensez que vous en avez environ combien dans votre téléphone ?
Plus de 200, je pense.
200, 400, je pense, oui, largement. Ouais.
Et en général, vous prenez des photos de quoi ?
De nos enfants, petits-enfants, des paysages.
Des boutiques.
Jolis repas, de beaucoup de choses.
Alors après, ça peut être utile aussi. Moi, je m'en sers beaucoup pour mémoriser, par exemple, des horaires sur un endroit, une rue, une place de parking. C'est vrai que ça, cet aspect qu'on n'avait pas avant, c'est quand même devenu un moyen de mémorisation différent qu'on n'utilisait pas.
Alors ça rend peut-être un petit peu aussi feignant dans le sens, mais c'est quand même utile.
Et vous les regardez souvent, vos photos ?
Oui, quand j'ai un moment de repos où j'ai rien de particulier à faire, je les regarde et puis le téléphone me rappelle des souvenirs des années passées, donc ça fait plaisir de les regarder.
Il y a un an exactement, tac, il y a une photo qui ressort, il y a 8 jours, il y a un an.
Et on se resitue par rapport au Covid, on se dit, ah bah tiens, oui, c'était avant. Voilà, c'est un bon souvenir.
Ouais. Et vous en faites quoi des photos ? Par exemple, vous pouvez en faire des albums photos, tout ça ? Qu'est-ce que vous en faites ?
Certains, j'en classe en album ou par date aussi, par année. Comme ça, on arrive à se repérer dans le temps aussi.
On fait des extraits, on élimine beaucoup et on garde les quelques photos. Ouais.
Est-ce que c'est important les photos pour vous ? C'est symbolique ? Ouais.
C'est le souvenir. C'est le souvenir de ce qu'on a vu, des membres de la famille, des disparus, des nouveau-nés, c'est toute notre vie.
Est-ce que vous pensez être addict à toujours vouloir prendre des photos ou c'est comme ça de temps en temps ?
Ça dépend des circonstances. Non, c'est pas 24 heures sur 24 non plus.
Non.
Mais dès qu'on se déplace quelque part, là je vois, j'ai pris la cathédrale, le beffroi, les frontons. Et ça permet de les regarder, de montrer aussi à nos proches ce qu'on a vu. On partage les photos.
Bonjour, est-ce que vous prenez beaucoup de photos ?
Oui, je pense que depuis ces dernières années, j'en prends beaucoup plus qu'avant.
Vous pensez que vous en avez environ combien dans votre galerie ?
Je pense au moins 4000.
Vous prenez des photos de quoi ?
Alors moi, principalement de ce que je mange, parce que avec Instagram, les réseaux sociaux, on a tendance à poster facilement ce qu'on mange, et des photos de voyage et de famille.
Vous les regardez souvent ensuite, vos photos ?
Malheureusement, pas assez. Je crois que souvent, on les stocke et on les regarde beaucoup moins qu'avant.
Vous en faites quoi ? Vous en gardez des traces ? Vous faites des albums photos ?
Alors, elles sont sur un cloud Google, et sinon, je les imprime, mais rarement. Pour moi, c'est les souvenirs, principalement. Ça rappelle des bons moments passés avec les gens qu'on aime.
Vous pensez que vous êtes addict à toujours vouloir prendre des photos ou pas ?
Je fais attention à pas le devenir, mais ça serait facile de le devenir. J'essaye de plutôt regarder les choses plutôt que juste les photographier, parce que sinon on voit partout des gens dans les musées, en voyage, qui prennent des photos mais qui en fait ne regardent plus avec leurs yeux.
Petite pause musicale avec Holiday de Green Day. Avant d'écouter la seconde partie du micro-trottoir, mettez la musique à fond, ça va décoiffer.
Down like an Armageddon flame. What a shame, the ones who died without it.
entendre la musique Holiday, extraite du 7e album American Idiots du groupe Wing Day, sorti en 2004. Écoutons la seconde partie du micro-trottoir réalisé par Zoé et Ambre à propos de l'addiction aux photos.
Est-ce que tu prends beaucoup de photos avec ton téléphone ?
Ouais, j'en prends énormément.
Est-ce que tu penses que t'en as combien à peu près dans ta galerie ?
1000 ou un peu plus, je pense.
Tu prends des photos de quoi en général ?
Bah, des photos avec mes potes en soirée ou même à la caserne.
Ouais, parce qu'il est sapeur-pompier, faut préciser. Et est-ce que tu les regardes souvent tes photos ?
Bah oui, un coup de temps en temps.
Ouais. Et qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu gardes des traces, des photos, tout ça ?
Ouais, je garde énormément de souvenirs de mes photos et après, souvent, on les regarde avec des potes et voilà.
Est-ce que ça a une symbolique, une importance ?
Bah oui, c'est symbolique parce que c'est des souvenirs et c'est important.
Et est-ce que t'es addict ?
Ouais, un peu quand même.
Est-ce que tu prends beaucoup de photos ?
Alors, ouais. Ouais, j'en prends beaucoup, ouais.
Tu penses que t'as environ combien de photos dans ta galerie ?
Je dois en avoir 2000, 3000, quelque chose comme ça.
Tu prends en général plus des photos de quoi ?
Alors avant, quand j'avais mon chien, je prenais énormément de photos de lui quand il était dans des positions cheloues et tout. C'était drôle. Ensuite, je prends des photos de ma famille et plus particulièrement de mes petites sœurs et de ma maman. Parce que, bah voilà, j'aime beaucoup. Et après, je prends des photos de paysages, mais c'est plus rare.
Et tu les regardes souvent, tes photos ?
Alors souvent, c'est un bien grand mot. Disons que je les regarde 3-4 fois par an. Bon allez, peut-être un peu plus, je suis peut-être un peu... Ouais. Allez, disons quand j'ai des grands trajets à faire en voiture, quand je vais en vacances et tout, souvent je me mets un petit diapo sur l'option du téléphone et je regarde vraiment toutes mes photos de A à Z.
Et qu'est-ce que t'en fais des photos ? Tu les gardes en souvenir ? Tu les mets en story Insta ?
Alors, j'ai pas les réseaux, du coup je mets pas de story, mais enfin si, je les mets sur WhatsApp. Et ensuite, j'essaye de les développer. Là, ça fait longtemps que je dois les développer, mais ma mère ne veut pas. Elle a pas le temps de le faire, donc maman, s'il te plaît, aie le temps. Et voilà.
Est-ce que c'est important pour toi de prendre des photos ?
Oui, c'est très important parce que notre cerveau, il peut faire le tri parfois des souvenirs, et avec les photos, c'est les souvenirs que nous, on veut garder. Donc voilà.
Est-ce que tu penses que tu es addict au fait de prendre des photos ?
Alors, addict, j'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, j'aime énormément prendre des photos. Est-ce que tu prends beaucoup de photos ?
Alors oui, bah ça m'arrive de prendre des photos bah souvent, même je dirais tous les jours quasiment, quand je fais des activités.
Tu penses que t'en as combien dans ta galerie ?
Alors, en sachant que je fais beaucoup le tri, parce que bah je prends vraiment beaucoup de photos, du coup je fais souvent le tri, et je dois en avoir 500, pas plus.
Tu prends des photos de quoi ?
Alors, en général, de mes copines et moi, quand je vais à des concerts, de beaux paysages, tout ça.
Tu les regardes souvent, tes photos ?
Oui, ça peut m'arriver. Surtout pour les poster, quoi.
T'en fais quoi de tes photos ? Tu gardes une trace ? Tu fais des albums photos ?
Je les mets en story ou je les garde tout simplement dans mon téléphone pour les regarder de temps en temps.
C'est important pour toi, les photos ? Est-ce que ça a une certaine symbolique ?
Moi je trouve que c'est super important parce que depuis que ça a été inventé, c'est vrai que ça a fait fureur et que grâce à ça on peut retrouver chaque moment de notre vie parce que des fois oui comme tu disais les souvenirs ça s'efface, il y en a qui s'effacent et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se rappeler de quelques trucs avec des photos quoi.
Est-ce que tu penses que t'es addict et que tu éprouves un certain plaisir voire même un besoin de prendre des photos ?
Quand j'ai des événements spéciaux, oui, genre j'ai vraiment un besoin de prendre des photos pour immortaliser le moment et je me sens, sans prendre de photos, je le vivrais mal, franchement. Mais de là à dire d'être addict, c'est que dans ces moments-là, mais sinon, dans la vraie vie, je suis pas du tout addict.
Comme vous le voyez, la photo régit nos vies et nous ne semblons vivre que pour cela. J'espère que cette chronique aura pu vous permettre de prendre conscience de l'impact, de la place de la photo dans vos vies. Charlie s'est attaqué à un sujet, et non pas des moindres, celui du droit à l'image.
Le droit à l'image est-il dans le code civil, mais aussi dans le code pénal et dans la loi du 29 juillet 1981 qui concerne la liberté de la presse ? On marque donc que le droit à l'image ne date pas d'hier. Mais que risque-t-on à ne pas respecter ce droit ? Si tu prends une photo d'une personne et que tu la publies sur le web ou les réseaux sociaux sans son consentement, tu t'exposes jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Mais si elle a caractère pornographique, cela s'élève jusqu'à 75 000 euros d'amende. Enfin, si cette personne porte plainte, bien sûr. Même si le droit à l'image doit être respecté, il y a des limites à cela. Comme un fait d'actualité peut autoriser la diffusion de l'image d'une personne sans préalablement avoir demandé son avis. Par exemple, des photos de personnalités politiques ou publiques peuvent être diffusées mais uniquement dans le cadre de leur fonction et pas de leur vie privée. Et aussi le cas lors de manifestations publiques, comme des marches pour le climat, ou si la personne prise est considérée comme hors cadre. Et encore, et pour finir, si la photo aborde un sujet historique, comme par exemple des photos de soldats des différentes guerres passées. Mais alors, quand peut-on porter plainte? Il faut porter plainte si vous avez été photographié ou filmé dans un lieu privé sans avoir donné votre accord, d'après le site du service public français. Il est aussi fortement conseillé de vous rendre au sein d'un commissariat, une brigade de gendarmerie, pour porter plainte contre la personne ayant diffusé la photo. Je précise qu'il n'est pas possible de porter plainte en ligne, mais on peut le faire par courrier. Autre cas, imaginons qu'il y a une photo embarrassante de vous qui traîne sur le net. Vous pouvez toujours, si vous ne voulez pas directement porter plainte, contacter un organisme sûr. Il s'agit de la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Contactez-la en cas de refus du responsable de retirer l'image dans un délai de 2 mois. Je tenais à vous informer d'un nouveau type de phénomène. C'est ce qu'on appelle couramment le principe du reverse porn. Cela s'agit de porter atteinte à son net petit ou petite amie en publiant son insu des photographies ou des vidéos intimes le ou la concernant sur Internet, comme l'est expliqué sur le site Village de la Justice. Donc faites attention aux photos que vous partagez avec votre conjoint avant ou après votre séparation, surtout si elles relèvent de l'intime. Cela pourrait se retourner contre vous un jour ou l'autre après votre séparation. Mais si jamais cela vous arrive, que dit la loi? En fait, toujours selon Village de la Justice, le droit français peut s'exercer sur ce phénomène, grâce au code pénal. Celui-ci stipule que l'auteur de l'acte s'expose à 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Mais cela ne concerne que si photos ont été prises au sein de lieux privés. Mais alors, qu'en est-il si une photographie compromettante d'une personne ou de vous a été prise dans un lieu public? Comment lutter contre sa propagation? En fait, suivant la même source, l'article 9 du Code civil prévoit que toute personne dispose d'un droit exclusif sur son image. Voilà, pour conclure, je pourrais dire de faire attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux et sur le web. Il faut être sûr d'avoir l'autorisation de toutes les personnes avant la mise en ligne.
J'espère que maintenant vous saurez mieux quoi faire s'il y a une atteinte à l'image, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Tendez l'oreille, Justine et Louise vous ont préparé une surprise.
Nous avons interviewé Aimée Thirion et nous l'avons interrogée à propos de son métier de photojournaliste. Elle nous explique tout d'abord pourquoi elle a choisi ce métier.
Pourquoi j'ai choisi ? Alors, j'ai choisi pour aller surtout à la rencontre des gens, aller voir des lieux, rentrer dans des lieux que je ne connais pas et surtout ramener des témoignages.
Et justement, on se demandait quel était votre rapport à la photographie. Est-ce que vous avez choisi justement de devenir photojournaliste parce que c'est un sujet qui vous fait vibrer depuis votre enfance, ou alors c'est venu peut-être plus tard?
Alors depuis que je suis toute petite, oui, j'aime bien. Enfin, j'ai toujours été attirée par l'image. Et après, je me suis pas décidée à être photographe immédiatement. C'est plutôt à l'âge de, je dirais, de 30 ans où là j'ai décidé de vraiment essayer de vivre de ça. Et puis ça a fonctionné.
Avant, vous avez donc suivi un parcours pour devenir journaliste classique, c'est ça?
Non, j'ai pas du tout. En fait, quand j'ai décidé de me lancer dans la photo, c'est-à-dire de vivre de ça, j'ai été assistante dans un studio pendant 2 ans, si je me trompe pas, parce que ça remonte un petit bout de temps, où là j'ai appris vraiment à me servir d'un appareil photo. Après, j'ai été pendant 1 an et demi, 2 ans photographe au sein d'un journal, donc à mi-temps. Et ensuite, je suis devenue complètement indépendante. Et j'ai travaillé pour des journaux en tant qu'indépendante.
Pourquoi vous avez fait ce choix d'être indépendante et de ne pas travailler pour un seul média?
Moi, je travaille beaucoup pour des journaux nationaux. Dans les journaux nationaux, il n'y a pas peu ou pas de photographes qui sont intégrés à l'intérieur d'un journal. Donc, il y a déjà ça. Et ensuite, moi, ça me plaît. Ça me plaît de travailler pour différents supports. Pas chercher non plus à rentrer dans un seul journal. Et ça me plaît bien comme ça aussi.
Et est-ce que du coup ce statut vous permet de choisir vos sujets, ou est-ce que vous répondez quand même à des commandes et vous n'avez pas forcément le choix des sujets que vous traitez?
Alors je réponds beaucoup à des commandes, ce qui m'intéresse parce que il y a par exemple un journal peut m'appeler pour me demander de suivre tel sujet. Ça m'intéresse parce que c'est en général parce que c'est pas quelque chose que j'aurais fait, c'est peut-être un lieu où je n'aurais pas pensé à aller. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et aussi, à côté, je travaille sur je parle de sujets à long terme, justement, sur des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je veux travailler pendant un long moment.
Et ma question va peut-être rejoindre celle de Justine. pourquoi ces sujets ? Parce que vous êtes quand même assez engagé, on a suivi un peu votre travail, on a vu que vous faisiez donc des photos notamment à Calais, au Liban si je ne me trompe pas, ou alors encore en Algérie. Pourquoi décider de montrer justement ces espaces, ces endroits qu'on souhaite cacher ou alors qu'on ne montre pas forcément dans la presse ou ailleurs ?
Ben ça, il y a des sujets des fois qui m'interpellent, en fin de compte, qui m'interpellent, que je vais aller voir, je vais aller rencontrer ces personnes. Par exemple, en Algérie, j'avais travaillé pas mal aussi sur les femmes algériennes. Je voulais absolument aller rencontrer ces femmes. J'en ai beaucoup que les femmes, beaucoup de femmes étaient victimes de diverses choses. Donc, je voulais absolument aller les rencontrer. Et puis après, j'ai rapporté des témoignages. C'est souvent comme ça. Il y a des lieux qui m'interpellent, qui me questionnent. Donc, je veux y aller. Je vais aller voir par mes propres yeux et je vais aller rencontrer surtout les gens.
Et justement, donc, le fait de pouvoir les rencontrer, vous avez réussi à nouer des liens avec eux. Comment ça se passe ? Est-ce que vous gardez contact après ?
Oui. Enfin, alors, il y en a obligatoirement. Au fur et à mesure que les années passent, il y a des contacts qui se perdent et aussi il y a des contacts qui se nouent. Enfin, il y a des choses qui... Donc, il y a beaucoup de personnes, effectivement, avec lesquelles je reste en contact. Alors, ça peut être un message par an, quand je ne travaille plus sur le sujet. Mais sinon, oui, il y a des personnes que je suis pendant des années aussi. Donc, on reste vraiment en contact, oui.
Comment est-ce que vous procédez pour des photos que vous faites plutôt de lieux ? Est-ce que vous venez en repérage avant ? Et quand vous faites des photos de personnes plus intimes, est-ce que... vous parlez d'abord avec eux sans appareil photo, puis vous prenez des photos.
Quand c'est une commande, par exemple, demain, un journal peut m'appeler pour me demander d'aller faire un portrait de telle personne. Là, en général, souvent, pour un journal, on travaille souvent en binôme. Donc, il y aura une journaliste qui écrit ou un journaliste qui écrit qui sera avec moi et qui va interviewer la personne. Donc là, je vais écouter l'interview. Comme ça me permet de découvrir en même temps un peu la personne. Et ensuite, on va choisir un lieu avec la personne et je vais faire un portrait de la personne. J'aurais peut-être même fait, si c'est une personne qui est connue, on va dire, j'aurais peut-être fait quelques recherches même la veille sur Internet pour essayer de voir ce qui a été dit sur elle, etc. Quand j'écoute l'interview que le ou la journaliste fait, j'observe beaucoup la personne. Et puis ensuite, ça me resserre pour le portrait. Ensuite, si on parle d'un travail à long terme que je fais, là, je vais rencontrer là où les personnes plusieurs fois. Je vais peut-être les suivre dans leur vie quotidienne. Et puis, je vais faire des photos au fur et à mesure. Donc, il y a effectivement, quand c'est un travail sur le long terme, je peux passer plusieurs jours avec les personnes et il y a des moments où je ne fais pas du tout de photos. Je suis juste là en train d'observer la personne dans son quotidien, par exemple.
Et on a observé donc justement vos photos. On a vu que vous faisiez des photos parfois en noir et blanc. Comment est-ce que vous choisissez justement ces angles, ces couleurs ? Est-ce que vous les adaptez selon le sujet que vous allez traiter, par exemple ?
Alors, en général, pareil. Quand c'est une commande pour la presse, en général, on nous demande de faire de la couleur. Donc là, je vais pas. Ou alors, peut-être, ce serait moi qui pourrais proposer éventuellement de faire du noir et blanc. Mais en général, c'est de la couleur pour les magazines et les journaux. Ensuite, quand c'est un travail que je décide de faire sur le long terme, les premiers jours, je vais aller sur les lieux, je vais rencontrer les personnes, etc. Et c'est là où je vais décider en me disant, là, ça, je le vois en noir et blanc. Ou ça, je le vois plus en couleur. Donc ça sera par rapport à ce que je vais ressentir sur le terrain. Enfin.
Vous traitez quand même des sujets comme par exemple la jungle de Calais, qui sont parfois assez clivants politiquement. Est-ce que vous avez déjà été face à une situation où vos photos étaient reprises ou détournées d'une manière qui ne correspondait pas du tout à ce que vous vouliez montrer ?
Alors, jusqu'à présent, non. Et peut-être que ça s'est fait sans que je le sache. En tout cas, de ce que je sais, non.
Donc, photojournaliste, c'est votre métier. Comment votre vie, elle s'orchestre autour de ça ? Parce que forcément, elle doit être impactée. Vous êtes sollicitée assez régulièrement, sûrement, par les médias pour aller prendre des photos. Comment est-ce que vous faites pour mêler votre vie personnelle et professionnelle ?
Pour moi, c'est un ensemble. En fin de compte, les deux marchent ensemble. Comment dire ? Tout tourne autour de ça. C'est vraiment, je veux dire... Pour moi, ce que je fais, la photojournaliste, photographe, documentaire, etc., ça fait partie de ma vie. J'ai pas à jongler, on va dire, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. On va dire. C'est vraiment un ensemble.
quelle est votre actualité ? Parce que peut-être vous pouvez nous parler des derniers sujets que vous avez traités, de ce que vous êtes en train de faire, si vous savez les prochains que vous allez traiter.
Je continue un petit peu ce que j'ai commencé là depuis plusieurs années. C'est-à-dire que j'étais au Liban là il y a quelques semaines, donc je vais certainement y retourner. Donc je continue à travailler sur le Liban. Là-bas, bon, là, il y a quelques semaines, j'ai fait par rapport à la guerre qui se passe actuellement dans la région, mais je travaille beaucoup aussi sur ce que deviennent les Palestiniens. Et je continue ici aussi, pas qu'en France, on va dire, sur les femmes, l'exil féminin, par contre, dans le monde. Ça, c'est des projets vraiment à long terme. Ça, c'est les deux grands projets que je continue. Quand je travaille pas sur ça, c'est-à-dire quand je suis pas en train de photographier par rapport à ces sujets-là, ces deux grands sujets-là, je suis toujours en train de réfléchir autour de ça. C'est-à-dire que je lis beaucoup, je fais continuellement des recherches sur ça, je note des idées par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a toujours une réflexion. C'est ça aussi, faire un projet à long terme comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le moment de prise de vue. Le moment où on est sur le terrain avec les personnes, où on photographie aussi les lieux, etc. Et il y a tout à côté ce moment de réflexion par rapport à ça.
Justement, vous dites que vous pensez souvent aux projets à long terme que vous faites. Est-ce que c'est pas parfois difficile de traiter certains sujets, par exemple sur les exilés, la jungle à Calais ou d'autres sujets, c'est des sujets qui sont assez lourds. Est-ce que c'est pas compliqué parfois de repartir comme ça et de laisser tout ça derrière vous?
Alors obligatoirement ça chamboule un peu à l'intérieur de soi, mais il faut gérer. Je pense que chacun a son petit rituel, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un qui par exemple prend quelques heures par moment pour aller me promener dans la nature. Il faut trouver un petit rituel pour gérer tout ça, ses émotions. Je pense qu'il faut connaître ses limites. Moi, pour l'instant, ça va. Donc, mais je fais attention. Je suis quelqu'un qui fait très attention à ça, qui me teste souvent sur ça, par rapport à mes réactions, par rapport à mes émotions. Et après, quand on revient, si j'ai bien compris la question, quand on revient de terrain, chez soi, il faut savoir, se remettre dans une autre réalité.
Grâce à Aimé Thirion, on espère que vous avez pu découvrir ce métier ou en apprendre davantage. Et qui sait, cette rencontre fera peut-être naître des vocations chez certains.
Nous allons écouter Kodachrome de Paul Simon.
It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. I love you.
Nous venons d'entendre Kodachrome de Paul Simon. Ambre nous a concocté une chronique à propos du film L'amour ouf.
L'image, c'est aussi le cinéma. Et en France, et même dans le monde, nous sommes nombreux à s'y rendre afin de voir des films sur un écran géant. C'est notre cas avec Zélie. Nous sommes de grandes adeptes du cinéma. Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons été voir un film qui, je pense, va marquer l'histoire du cinéma français. Un film réalisé par Gilles Lellouche. Il raconte une histoire d'amour entre Jackie et Clotaire, deux adolescents que tout oppose. Malgré cela, ils sont heureux de partager ce premier amour. Un amour sain, un amour vrai, qui risque d'être chamboulé par la vie un peu mouvementée de Clotaire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du film L'amour ouf. Ce film est sorti le 16 octobre dernier dans tous les cinémas en France. On y retrouve Mallory Wanek et Malik Frika dans le rôle du jeune couple durant sa période adolescente. Adèle Exarchopoulos et François Civil sont quant à eux Jackie et Clotaire à l'âge adulte. Dans le rôle secondaire, on retrouve des acteurs comme Alain Chabat ou même Vincent Lacoste. Bref, ce film a un casting de fou qui permet aux spectateurs d'être aspirés dans l'histoire, mais également de s'identifier aux personnages. Gilles Lellouche s'est basé sur le livre de Neville Thompson et a mis près de 10 ans à écrire cette histoire. Maintenant, elle fait vibrer toutes les salles de cinéma du pays. Cette histoire touche le public car elle nous permet de réfléchir sur notre premier amour. Est-ce qu'au final ce n'est pas mieux d'attendre vraiment la bonne personne ou est-ce que c'est mieux de se mettre avec quelqu'un juste pour dire d'être en couple, pour dire d'avoir vécu une première expérience? En sortant de notre séance, nous avons pris le temps d'interviewer les gens qui sortaient de la salle en même temps que nous. On a voulu connaître leurs ressentis, leur avis et l'impact que le film a eu sur eux. On les écoute.
Bonjour, donc qu'est-ce que vous en avez pensé du film Amour ouf?
En vrai c'était bien, juste en fait vu que TikTok on a fait tout un truc, bah je m'attendais à mieux, mais en vrai c'était un bon film.
Bah en vrai je suis d'accord avec elle. Ouais.
TikTok c'est vrai que ça a beaucoup fait parler du film, on avait vraiment une grande attente et puis après on voit, bah franchement moi j'ai aimé quand même malgré l'attente.
Moi je trouve qu'il était très émouvant et que...
Il était hard.
Il était bien. Et il parlait bien du premier amour et tout, ça m'a fait penser à mon premier amour et tout. C'était triste.
L'acteur il jouait bien le
il
rôle.
Il est trop beau. Il est trop beau.
Et au cas où, si l'acteur il m'entend, je le bats la bagarre au cas où.
Et l'acteur il est trop beau avec les cheveux rasés, faut qu'il laisse ses cheveux rasés. Hein.
Moi j'ai bien aimé, ça fait penser au premier amour quoi.
Est-ce que le film vous a fait réfléchir, vous a donné des leçons de vie, etc.?
Bah, ça fait forcément réfléchir sur l'amour, mais ouais en vrai ouais un petit peu.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la morale du film comme quoi on a un véritable amour?
Oui.
Oui.
Non.
Pourquoi? Pourquoi oui?
Okay. Oui. Parce que des fois, il y a peut-être mieux, mais on sait pas. Moi, je pense qu'on peut aimer vraiment qu'une fois. Après, les autres, on les oublie vite.
Moi, je suis d'accord.
Oui, je suis d'accord aussi.
Pas tout à fait.
Pourquoi?
Bah, je pense qu'on peut être convaincu d'avoir un amour à un moment donné. Et puis, bah, en grandissant, on peut aussi changer. Et je pense qu'on peut retomber amoureux.
Je crois que c'est... Oui, je suis d'accord. On peut retomber amoureux. Mais c'est vrai que le premier amour, ça reste toujours important. Et là, le fait aussi qu'elle garde ça en elle et puis que son père comprenne que c'était très important, je trouve que ça joue beaucoup. C'est vraiment super. C'est un très beau film. Dur, hein, quelquefois.
Ouais. Si vous aviez un mot à dire pour convaincre les gens d'aller voir ce film, vous leur diriez quoi?
Bah, c'est un amour ouf, quoi.
Ouais, ça
de très bons acteurs aussi, de très bons acteurs. C'est d'actualité, c'est dans notre région en plus, on se retrouve un peu dans le nord, sur la côte. Non, c'est bien, très très bien.
Moi je pense que les gens ils devraient vraiment le voir parce que déjà premièrement, la musique dans le film elle est trop bien. Et aussi les images du film elles sont vraiment bien réalisées. Et ça nous met vite dans l'ambiance et tout. Et en plus tout le monde s'identifie au film en fonction de son histoire personnelle. Donc voilà, il est bien.
Pour terminer, nous pouvons dire que, malgré la durée du film qui est assez conséquente, tout de même 2h40, l'écriture de Gilles Lellouche a permis de montrer en profondeur les sentiments de chaque personnage, notamment avec le texte de chacun d'entre eux. Le cadrage du film, lui aussi, nous donne ce ressenti. Il possède des passages où la caméra est très proche du visage et surtout des yeux des acteurs. Tout cela permet à nous, spectateurs, de se sentir touchés, mais également, comme on le disait plus tôt, de réfléchir sur la notion de l'amour.
Vous écoutez toujours le Radiolab, je ne sais pas si cette chronique ainsi que ce micro-trottoir vous ont donné envie de regarder le film. Pour ma part, oui. Nous nous quittons en musique avec The Who, Pictures of Lily. Je remercie encore l'équipe, Clémence, Ambre, Justine, Louise, Zoé et surtout Charlie qui nous supporte chaque samedi. À bientôt. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something. And stuck them
back time. I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily helped me sleep at night. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Yeah.